Le moment où la parole de Dieu est proclamée à partir des Écritures saintes. Laura, tu n'as pas précisé, tu n'as pas souhaité que je prêche sur un passage particulier. Alors, c'est moi qui ai choisi. Et j'ai choisi un passage en particulier. Et au cœur de ce passage que je vais lire, il y a une phrase qui m'est très chère et qui, j'espère, t'apportera aussi beaucoup. Le passage que nous allons lire ce matin se trouve dans la lettre que Paul a écrite à l'église de Rome dans les années 57-58 à peu près, du 1er siècle. Il ne connaissait pas cette église chrétienne, mais il espérait beaucoup s'y rendre parce qu'il avait un projet de faire un voyage jusqu'en Espagne. Finalement, il ira à Rome, mais prisonnier, pour y être exécuté. Mais avant cela, il a écrit cette lettre et nous lisons dans le chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, pour ceux qui suivent dans leur Bible ou sur leur smartphone. Et pour moi, c'est le meilleur chapitre de toute la Bible. On ne va pas lire tout le chapitre. On lit à partir du verset 10. Mais avant de lire, on va prier, comme le me rappelle Gaspard à tous les cathés. Seigneur, nous voulons lire tes Écritures et nous sommes là avec nos esprits pleins d'habitudes, pleins de préjugés, pleins de... On est biaisés, mais on demande à ce que ton esprit nous aide à lire et à recevoir sincèrement, honnêtement, ces Écritures. Que ta parole, ta pensée, Seigneur, nous transforme et nous renouvelle. Amen. Verset 10. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché, mais le souffle de l'Esprit est en vous parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors... Pardon, j'ai perdu la ligne. Ah mince. Voilà. Alors Dieu, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons des obligations, mais non envers la faiblesse humaine pour vivre selon sa logique. Car si vous vivez encore selon cette logique, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir ces comportements de votre être égoïste, alors vous vivrez. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit de Dieu que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». Et je lis un peu plus loin les versets 38 et 39. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans le passage que j'ai lu, Paul encourage les chrétiens et essaye de leur faire comprendre le grand changement de vie que la venue de cet Esprit Saint en eux opère. Pour nous, un chrétien va connaître ou a connu cette expérience spirituelle étonnante. C'est une rencontre avec Dieu dans son cœur. Ce n'est pas une rencontre physique, c'est une rencontre spirituelle, d'esprit à esprit. Nous reconnaissons une présence, nous dialoguons par nos pensées avec les pensées de l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous reconnaissons cette présence, nous sommes conquis, convaincus, bouleversés par son amour. C'est un peu ce qu'a raconté Laura quand elle s'est mise à prier, mais en croyant qu'il était là et qu'elle a pleuré. C'est la conversion, L'Esprit de Dieu vient alors dans notre vie. Tel un petit Jiminy Cricket perché sur notre épaule, nous découvrons alors que Dieu est présent à chaque instant de notre vie et nous sentons son regard sur nous. Paul encourage les chrétiens à partir de cette réalité spirituelle. Laura, nous en avons parlé et je crois bien que tu as fait cette expérience, que tu connais cette présence de l'Esprit de Dieu en toi. Et la première chose que Paul rappelle à ses lecteurs est que si l'Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts demeure en toi, Laura, en vous qui m'écoutez, alors Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Nous parlons de résurrection, pas de réincarnation, pas de quitter son corps avec son âme vers les nuages, mais bien de nos corps mortels qui reprennent vie et qui deviennent immortels. Déjà là, il y a tout un programme derrière cette idée. Car la mort est pour nous tous une limite infranchissable, une ombre qui entache toutes les choses dans notre vie. Si bien que on essaye de ne pas trop y penser. Parce que si on pensait tout le temps au fait qu'on va mourir, toute notre existence perdrait sa saveur. C'est comme si tout le goût des choses, toute la joie et le plaisir qu'ils peuvent nous apporter seraient aspirés. Jésus a vaincu la mort et sa victoire, il nous la donne par cet esprit qui vit en nous. C'est formidable et Jacqueline te l'a rappelé, cette promesse fait partie de celle que tu as reçue aujourd'hui à ton baptême et ne l'oublie jamais. Mais Paul ne s'arrête pas là, il développe. Puisque vous allez ressusciter, pourquoi continuerez-vous à vivre comme si vous n'aviez qu'une seule vie? Pourquoi se laisser guider par la peur d'avoir manqué sa vie en n'essayant pas ceci, en ne connaissant pas cela, le carpe diem, de toute façon, si je ne me sers pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et blablabla. Nous avons des obligations, dit Paul. Nous bénéficions de quelque chose et il est de notre devoir de le vivre pleinement. C'est comme si je recevais un don de 100 000 euros. Il est de mon devoir de l'assumer, cette somme, de vivre avec elle, de ne pas la gâcher, de ne pas avoir peur et l'oublier. Un chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu avec cette espérance, on lui doit apprendre à vivre, non pas comme quelqu'un qui n'a qu'une vie, puis après c'est le néant, mais comme quelqu'un qui reviendra à la vie. Je vais danser sur ma tombe un jour. Dans cette vie, je n'escaladerai peut-être pas les plus hauts sommets, je n'accomplirai peut-être pas d'exploits, je ne serai peut-être pas célèbre ou riche ou savant, mais cette vie, pour moi, n'est que le prologue d'un livre. Et la mort ne sera pour moi qu'une saute de page pour entamer un nouveau chapitre, un chapitre sans fin. Et qui sait alors ce que je vivrai dans le monde nouveau que Jésus établira. Est-ce là une pensée béquille pour les paumés et les ratés de ce monde, les faibles, comme tu disais? Le rêve de l'immortalité n'effleure-t-il jamais les esprits des riches, des puissants de ce monde? Je les crois encore plus torturés par la mort que nous, les petits de ce monde. Encore plus torturés par la mort. Car toute leur puissance dans ce siècle ne les dégage absolument pas de cette destination finale commune. Ils peuvent, peut-être certains d'entre eux, faire plier un État à genoux devant eux. Ils ne peuvent pas rallonger leur vie de 10 secondes. Certains ultra-riches investissent des sommes colossales dans la cryogénisation, s'infligent des traitements à prix exorbitant en espérant se rajeunir. Qu'y a-t-il de plus frustrant que d'avoir toute cette puissance économique, politique dans ce monde, mais d'être incapable de se protéger de la mort elle-même? Alors non, la résurrection en Christ n'est pas un lot de consolation pour les petits de ce monde. C'est l'espérance qui sommeille en chacun d'entre nous. Et c'est le cadeau de Dieu qui vient répondre à une espérance profonde de l'humanité. L'Esprit en toi, Laura, vous chrétiens qui m'écoutez, vous guide sur ce chemin d'une autre vie. Il nous apprend à changer nos regards, nos valeurs, nos priorités, afin que cette espérance impacte notre quotidien et ce style de vie nouveau est une des marques des enfants de Dieu, dit Paul. Car, et c'est là le passage le plus important pour moi, car, et je le relis, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu nous rend libres. Mais comment peut-il nous rendre libres et de quoi vient-il nous rendre libres? Boris Cyrulnik est un psychologue et un éthologue français, auteur de nombreux livres intéressants. Et dans ses livres, il développe cette idée importante, je pense, qui m'a beaucoup touché. Il a observé des bébés, animaux ou humains même, et il les a vus qu'ils étaient régis par certains besoins fondamentaux, deux en particulier. L'un qu'on imagine bien consiste à se nourrir, boire, manger, et puis évacuer tout ça. Et l'autre, qu'il a identifié comme fondamental, c'est de se sentir sécurisé. Il observe que ces petits êtres en devenir gèrent leur énergie vitale qu'ils possèdent pour assouvir ces deux besoins. Un enfant qui ne se sent pas en sécurité affective déploiera beaucoup d'énergie envers ses parents pour qu'ils lui donnent de l'attention, le sécurisent. S'il ne se sent pas exister face à eux, il fera toutes les pires bêtises de la terre, préférant les punitions à l'ignorance. Il délaissera l'exploration du monde qui l'entoure pour garantir le fait qu'il se sente exister aux yeux de ses parents. Devenu adulte, ce besoin d'attention, d'affection est parfois en carence. Et nous vivons des relations autour de nous où nous aspirons profondément à ce que les gens viennent combler ce vide en nous qui nous empêche pleinement le droit d'exister et qui nous bride dans cette exploration de la vie et du monde. Je crois que Boris Cyrulnik a raison. Et je crois que ce que l'Esprit vient faire en nous lorsque il fait de nous des enfants de Dieu, c'est de nous libérer d'une terrible peur, la peur de l'abandon. Il n'y a rien de pire que l'amour conditionnel. Parents, nous pouvons manipuler nos enfants grâce à l'amour conditionnel. Conjoints, nous pouvons manipuler nos compagnons de vie grâce à l'amour conditionnel. Pasteurs et anciens, nous pouvons manipuler nos paroissiens en prétendant que Dieu a un amour conditionnel. Et c'est bien ça qui ferait de nous des esclaves, un amour conditionnel. Il nous plongerait dans la peur de lasser l'amour de l'autre, de lasser l'amour de mes parents, de lasser l'amour de Dieu. Mais quand? Et je vivrai avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, de me dire quand est-ce que j'aurais fait un pas de trop? Quand est-ce que je serais allé un peu trop loin? Quand est-ce que je l'aurais déçu une fois de plus? Mais l'Esprit de Dieu qui vient en nous, dit Paul, n'est pas un esprit de servitude et d'asservissement. Il veut nous affranchir. Mais comment? Il nous communique, il nous rend capable de percevoir l'amour de Dieu pour nous. Je suis aimé de Dieu. Et je l'appelle Père. C'est cet amour de Dieu pour nous qui nous donne la liberté de l'appeler Père. Un amour modèle de tous les autres amours, l'amour source de tous les autres amours, parce qu'il est sans fin, sans limite, sans condition. Dieu est Dieu, il voit toute ma vie, toute mon existence. Il ne se limite pas à une connaissance partielle. Il sait qui j'étais hier, il sait qui je suis aujourd'hui, et il sait qui je serai demain. Alors s'il vient me dire qu'il m'aime, c'est en toute connaissance de cause. Dieu ne viendra jamais te dire « Alors, je ne m'attendais pas à ça de ta part. » Parce qu'il n'y a rien que tu pourras être ou faire ou dire qui le surprendra. Et aujourd'hui, qui t'accueille dans son église par le baptême, il le fait en connaissant déjà tout ce que tu vas être. C'est pour cela que cet amour nous libère. Et pour être franc, avec vous qui peut-être n'êtes pas chrétiens, nous autres les chrétiens, nous galérons à croire cet amour. Nous revenons toujours nous convaincre, ah oui, c'est vrai, Dieu m'aime comme ça. Et aussitôt nous revenons à lui en essayant de mériter, en essayant de plaire pour... Et pourquoi je fais ça déjà? Ah oui, j'ai peur d'être abandonné. Ah mais c'est vrai, tu ne m'abandonneras pas. Nous sommes tellement imbibés d'un monde qui ne nous offre pas cet amour inconditionnel qu'avec Dieu, alors que tout dans la Bible, les Écritures, notre cœur même nous dit qu'il nous aime sans condition, nous peinons à le croire et à le vivre. Alors nous ne sommes plus esclaves. Un esclave vit dans la peur parce qu'un esclave n'a de valeur que s'il est utile, s'il rapporte quelque chose, s'il rapporte plus d'argent que ce qu'il coûte. Un enfant de Dieu ne connaît pas cette peur. Il comprend comment Dieu l'aime. Et Paul en parle un peu plus loin, dans les versets 31-32, quand il dit « Mais que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils ?» Autrement dit, si Dieu a accepté que Jésus-Christ se sacrifie pour moi, pour mes fautes, ne me fera-t-il pas grâce pour toute autre chose? Dieu ne montre-t-il pas sa détermination à nous sauver par Jésus-Christ qui meurt sur la croix? Autrement dit, pardon, pas autrement dit. Et plus loin, Paul écrit encore, « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut me séparer de son amour. » Excusez-moi. Et c'est pas rien ne peut venir enlever mon amour pour Dieu. Non. Rien ne peut me séparer de son amour pour moi. Rien ne peut lasser l'amour de Dieu pour ses enfants. La vie chrétienne n'est pas d'aimer Dieu le plus fort possible, parce que si on ne l'aime pas le plus fort possible, il nous abandonne. La vie chrétienne, c'est d'abord de se laisser aimer par Dieu le plus fort possible. Rien ne peut lasser l'amour de Dieu pour ses enfants. Croyez-le et vous ne connaîtrez plus la peur. Laura, tu es maintenant baptisée. Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Ou jusqu'à la fin de ce monde. Il est fidèle. Fidèle au-delà de tout ce que tu peux imaginer, penser. Grâce à lui, tu ne seras plus jamais. Pardon, grâce à lui, Dieu ne sera plus jamais ton adversaire. Dieu ne sera jamais ton adversaire. Dieu ne sera jamais contre toi, mais toujours ton allié. Et si toi, il t'arriverait d'être infidèle dans ton baptême, à te laisser séduire par le péché, à préférer tricher. Sache que même si tu es infidèle, lui restera fidèle. Alors je te donne ce verset, je l'ai marqué dans ta Bible. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Certaines personnes croient que cet amour fidèle de Dieu envers les croyants nous rendrait laxistes, négligents, permissifs. Sachez qu'il n'en est rien. Se laisser aimer par Dieu est un chemin difficile parce que son amour nous dépouille de nos mérites, de nos prétentions, de nos glorioles Et tout chrétien qui a cheminé un peu avec le Seigneur sait combien elles sont nombreuses, ces glorioles en nous, et combien nous sommes habiles à les cacher, à les masquer pour les garder avec nous. Se laisser aimer sans mérite nous rend humbles, mais cette humilité nous rend libres, vraiment libres. Si ce matin vous êtes interpellé par ce message, si dans votre cœur vous enviez cet amour sans fin que nous connaissons les chrétiens, sachez qu'il peut être pour vous tous aussi. Christ ouvre son salut à tous, et les promesses qu'a reçues Laura aujourd'hui peuvent être les vôtres demain. Que vous tous qui connaissez déjà l'amour de Dieu puissiez vous y enraciner toujours plus, et que tous ceux qui ne le connaissaient pas puissiez le goûter dans votre cœur par une rencontre d'esprit à esprit. Amen.